Pierre-Étienne Joie.
Les passagers du vol Bucarest-Zurich sont à Kloten. Ils viennent d'atterrir à l'aéroport en cette fin de matinée. Ce vol de la compagnie suisse a dû se poser en urgence à Graz, en Autriche. En cause, des problèmes de moteur et un dégagement de fumée détecté dans le cockpit et dans la cabine. Les 74 passagers ont été évacués. Tania Zaspinar, un des membres de l'équipage, est actuellement en soins intensifs.
Oui, la compagnie aérienne vient de communiquer. Son état de santé reste incertain et sa famille est à ses côtés à l'hôpital de Graz en Autriche. Un autre membre de l'équipage reçoit encore des traitements médicaux. Quant aux passagers, tous ceux qui étaient hospitalisés ont pu quitter l'hôpital. Swiss se dit en pensée avec les personnes affectées en espérant une amélioration rapide de l'état de santé de son membre d'équipage. Elle précise aussi ne pas donner d'informations supplémentaires afin de respecter la vie privée des familles.
Et les passagers qui le souhaitaient viennent d'arriver à Zurich, c'est bien ça?
Oui, hein, et ce vol spécial organisé par Swiss vient d'atterrir à Kloten, à Zurich, avec les 63 personnes qui ont embarqué ce matin. Les recherches sont en cours pour déterminer la cause de l'incident d'hier soir. La compagnie affirme collaborer étroitement avec les autorités compétentes. L'avion concerné, c'était un Airbus A220, a été retiré de la flotte pour être analysé.
Tania Zaspinar, merci. Et dans cette période de l'année, vous envoyez peut-être vos cartes de vœux. Alors sachez que vous n'êtes pas les seuls. Les 7 conseillers fédéraux le font aussi. Un exercice esthétique et politique. Phileas Autier, vous avez examiné ces cartes qui transmet alors parfois un message très politique.
À l'image de la carte de vœux de Guy Parmelin, le Vaudois a choisi une photo du Léman avec en fond, sur les crêtes du Jura, des nuages sombres qui symbolisent la situation mondiale actuelle. Mais pourtant, devant le vaste lac et le soleil rayonne de confiance. Ton sérieux également pour le Tessinois Ignacio Cassis, dont la carte, en s'ouvrant, fait apparaître en 3 dimensions une chaise dont les pieds symbolisent les conventions de Genève. On célèbre leur 75e anniversaire cette année. La guerre a des limites, rappelle-t-il. Message d'optimisme technologique pour Albert Rushdie, avec une carte réalisée par intelligence artificielle. Concrètement, ça ressemble à une photo de l'Oberland bernois enneigé, un symbole de l'équilibre entre tradition et innovation.
Phileas, est-ce qu'il y a toujours un message politique ?
Non, parfois la carte est plus classique, voire peu inspirée. La moins réussie, à mon humble avis, c'est celle de Karine Keller-Sutter. Une série de mots-clés sur les thèmes traités par le département des finances avec le message « Joyeuse fête » en surbrillance dans les 4 langues nationales.
Phileas Autier, merci et vous examinerez de nouveau les 7 cartes dans le journal de 12h30. Un gouvernement d'expérience pour réconcilier les Français. François Bayrou a convoqué des poids lourds, dont les anciens premiers ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls, pour former une équipe sans grande ouverture à gauche et attendue de pied ferme dans une assemblée nationale sans majorité. Le nouveau premier ministre s'est dit fier d'un collectif d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. Ce sont ses mots, ceci 10 jours après son arrivée à Matignon. La neige est tombée ces dernières heures. Elle ravit les hôteliers, des stations de montagne. Virginie Langeroc, cet or blanc juste avant les vacances a permis d'accélérer les dernières réservations en montagne.
Oui, les responsables des régions touristiques de montagne constatent en effet une hausse des réservations depuis 2 jours. Des visiteurs désireux de passer la fin de la semaine ou le nouvel an à la montagne, ils constatent aussi moins d'annulations. Des bonnes nouvelles qui font dire aux responsables des stations de Villars, Grillon, les Diablerets dans le canton de Vaud que ce début de saison est excellent et en général, ajoute-t-il, quand la saison débute bien, il y a de quoi rester serein pour les mois qui suivent. Dans le canton de Fribourg aussi, cette neige fraîche est une aubaine. Un responsable du tourisme cantonal évoque une bouffée d'air frais à l'économie touristique des Préalpes fribourgeoises qui traverse depuis 2 ans une passe difficile et dont la plupart des stations se trouvent à basse ou à moyenne altitude. Donc cette fois, elles n'ont même pas eu besoin de canons à neige et rouvrent la quasi-totalité de leur domaine aujourd'hui. C'est le cas aussi en Valais, hein, les responsables hôteliers ont le sourire. Beaucoup de gens attendent en fait la dernière minute. Ça concerne surtout ceux qui vivent proche des stations. Cette clientèle représente 20 à 30% des visiteurs en Valais, mais dans le canton de Fribourg, c'est 80% de la clientèle qui vient à la journée. Alors ces centimètres tout juste tombés de neige fraîche sont pour les stations un cadeau inattendu.
Merci Virginie Langeroc. L'armée américaine a affirmé avoir tué 2 combattants du groupe djihadiste État islamique lors d'une nouvelle frappe aérienne en Syrie. Un combattant de l'EI a également été blessé. C'est ce qu'a rapporté le commandement central américain pour le Moyen-Orient. Washington mène depuis des années des frappes et des raids en Syrie pour aider à prévenir une résurgence du groupe État islamique. Et plus de 25 000 réfugiés syriens ont maintenant traversé la frontière turque pour rentrer dans leur pays au cours des 15 derniers jours. Ceci d'après le ministre turc de l'Intérieur, un flux qui a débuté dès la chute de Bachar el-Assad. La Turquie partage une frontière de plus de 900 km avec la Syrie. Depuis le mois de novembre, les Vaudoises et Vaudois qui ont récemment perdu un proche peuvent bénéficier de repas gratuits cuisinés et livrés par des bénévoles de l'association Asnova. Baptisée Bonnes Étoiles et Petits Plats, cette prestation rencontre un succès croissant. Une vingtaine de repas ont été livrés en 6 semaines. Les bénévoles ont tous en commun d'avoir eux-mêmes traversé un deuil. Ils sont ainsi à même de comprendre les difficultés liées à cette période délicate, précise l'association Vaudoise. La météo, ce mardi 24 décembre. Le temps est déjà ensoleillé en plaine et en vallée, dans les Préalpes et surtout le long du Jura, encore des nuages, puis développement de larges éclaircies, maximum 5 degrés. La bise va se lever en cours de journée, à 2000 mètres il fera moins 5 degrés. Demain, mercredi 25 décembre, un Noël ensoleillé, tout au plus quelques bancs de stratus sur le plateau, tôt le matin. De jeudi à dimanche, grisaille souvent tenace sur le plateau, sinon temps ensoleillé et très doux en montagne.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Merci. Merci de vous être mobilisés avec nous contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir contribué à leur offrir une enfance heureuse en Suisse et dans le monde. Ensemble, avec la RTS et la chaîne du bonheur, nous pouvons faire face à la maltraitance infantile parce que donner est un jeu d'enfant. Les dons sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année sur coeur-rts.ch.
Les références, Julian Sykes.
L'Europe est une idée qui me passionne beaucoup. Je trouvais le fait de pouvoir aller d'un pays, d'une culture à l'autre très rapidement, ça me plaisait beaucoup.
La voix du pianiste américain Nicolas Sengelich que l'on retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet d'une série de 5 émissions. Bienvenue à tous. Un virtuose au jeu très intérieur, né à Cincinnati en 1970. Un musicien à cheval entre le nouveau et l'ancien monde, car ses parents étaient des immigrés de l'Europe de l'Est. Sengelich a été biberonné à la culture européenne avant même d'aller se perfectionner en France. Il a lui-même choisi de vivre à Paris après des études menées au conservatoire de musique. Il avait 13 ans, il avait tout à découvrir de cette Europe qui le fascinait et qu'il avait découverte à travers sa culture musicale et littéraire. Quelques notes de Prokofiev sous les doigts de Nicolas Sengelich, un pianiste qui nous a quittés hélas trop tôt en 2022 à l'âge de 51 ans. Il avait un répertoire immense, Sengelich, aussi bien la musique austro-germanique que la musique française et la musique russe, avec une admiration particulière pour Serge Rachmaninov. Son premier album, un album solo qui a été publié chez Harmonia Mundi, il l'a consacré aux deux recueils d'études tableaux. Ce sont des pièces à la fois poétiques, avec un côté pictural, hein, leur titre l'indique, et redoutablement virtuoses.
Thank you.
Nicolas Angelitch dans l'une des études tableaux tirées de l'opus 39 de Rachmaninov. En parlant de musique russe, on va s'intéresser aux parents de Nicolas Angelitch, à sa mère tout d'abord. C'est elle qui l'a formé au piano, il a eu ses premiers cours dès l'âge de 5 ans. Et au micro de Charles Sigel, Angelitch évoque ici sa mère originaire de l'Europe de l'Est. Elle-même était la fille d'un père roumain et d'une mère slovaque.
Elle est née en Russie en plus. Elle a grandi jusqu'à l'âge de 9 ans en Russie et puis après ils sont partis, la famille a réussi à partir, même si c'était au moment de Staline, je sais pas comment ils ont fait, c'est encore des histoires rocambolesques et enfin des aventures humaines incroyables. Ils ont réussi, je ne sais pas comment, à partir en Yougoslavie.
C'était des Européens qui se sont transférés aux États-Unis.
Oui.
Et vous, vous êtes né aux États-Unis, vous y avez vécu jusqu'à 13 ou 14 ans.
Et moi,
vous
je
êtes
suis revenu en Europe. Voilà. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et c'est comme quoi, je pensais à ça récemment et je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais reproduit l'histoire de mon père finalement, parce que lui, il voulait absolument partir aux États-Unis. C'était ça qu'il voulait, c'était son rêve, le rêve américain. Et il l'a fait, il l'a réussi. Moi qui suis devenu... par le hasard et par les choses, par comment on définit une vie, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est des choix, c'est des hasards, c'est la vie qui vous arrive comme ça sans que vous ayez grand-chose à... Enfin bref, c'est très étrange finalement. Enfin, on comprend pas... je sais pas, Woody Allen dit dans Manhattan, « Nobody knows what the hell's going on ». Je sais pas. Ça me plaît beaucoup. C'est vrai que, voilà, moi, je me suis retrouvé en Europe et puis à un moment donné, j'ai commencé à réaliser puis à sentir le poids du fait que mes parents étaient loin, qu'ils étaient en Amérique et que même si j'allais les voir, je voulais qu'ils soient plus proches de moi. C'était difficile pour eux de quitter l'Amérique, spécialement pour lui. Et en fait, il était devenu tellement, finalement, tellement américain et tellement attaché à ce pays. Il faut voir aussi que quand les gens... ont des rêves comme ça, ils veulent fuir des choses aussi, des choses terribles qu'ils ont vécues au point de vue de l'histoire dans leur enfance. Et il avait vécu l'occupation allemande à Belgrade quand il était petit, et ça, c'est des choses terribles. Et puis, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, à quel point ça marque une vie. Enfin, bref, c'est...
Il en parlait, parce que vous disiez, il était juste un homme d'une grande pudeur.
Très
plein de secrets.
Oui, et puis il m'a raconté des choses très impressionnantes et terribles qu'il m'a racontées il n'y a pas longtemps. Il a commencé à m'en parler un peu. Et moi, j'étais fasciné, je lui demandais qu'il me raconte plus, quoi. C'était, en fait, finalement, ça paraît évident quand on en parle, mais ça l'a énormément marqué dans sa vie. Et donc, je crois que vivre dans un pays communiste, il voulait autre chose. Ça lui correspondait pas. Et puis, il voulait peut-être juste aller vers autre chose, tout simplement. Après terribles. Et il a...
changé de vie.
Voilà. Et puis, il a finalement trouvé ça en Amérique. Voilà. Et je sais pas, on cherche tous quelque chose, peut-être. Et parfois, on n'a pas besoin de partir de là où on est. Et puis, parfois, on est un peu dans une recherche de quelque chose. Et,
vos parents s'étaient rencontrés en Europe ou en
Europe? En Europe.
Donc ils sont partis ensemble.
Oui.
Vous êtes fils unique ou vous avez...
Fils unique, oui, absolument. Oui. Malheureusement, parce que j'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs, mais ça, on ne choisit pas. Et puis, ça aussi, ce n'est pas facile à vivre, forcément. Voilà. Mais on pense toujours que the grass is greener on the other side. So, I don't know. Thank you.
Un extrait tiré du ballet « Roméo et Juliette » de Prokofiev, version piano. C'était le portrait de Juliette en jeune fille, jouée par Nicolas Angelitch. On a vu que la mère de Nicolas Angelitch a été son tout premier professeur. Puis, il a fait le grand saut, un saut jusqu'à Paris, où il a eu plusieurs maîtres. L'un des plus importants, c'était Aldo Ciccolini, qui enseignait au début des années 80 au Conservatoire de Paris.
Ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé chez lui, j'avais 13 ans, et c'était vraiment un changement de vie total. Mais ça, on se rend pas compte forcément sur le moment. Et j'avais joué pour lui. Il avait dit « D'accord, je vous accepte ». Il avait été très, très sympathique comme ça. Et puis, il a choisi un programme. Voilà, il m'a donné « Voilà ce que vous allez travailler ». Il y a un concours d'entrée. Il y avait deux études de Chopin, je crois. Le deuxième scherzo de Chopin et la troisième sonate de Prokofiev.
Pour un gamin de 13 ans, oui. C'était un sacré programme quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. C'est très
vous veniez difficile. Donc, vous arriviez des États-Unis à ce moment-là?
Oui.
Oui, parce que vous êtes de nationalité franco-américaine.
Je suis américain.
Américain.
Je suis presque français parce que vu que je me suis installé ici depuis 28 ans, voilà.
Mais d'origine d'Europe centrale par vos parents.
Oui, absolument, absolument. Et donc je suis arrivé ici en 84. Encore une fois, oui, j'avais 13 ans. C'est un changement de vie total quelque part et c'est très impressionnant, ça. Voilà.
Surtout que jusqu'alors, vous n'aviez travaillé qu'avec votre mère.
Surtout avec elle. J'avais travaillé avec d'autres, mais finalement, tout le monde disait que ce n'était pas bien de travailler avec ses parents et tout ça. Quand j'étais petit, ils disaient qu'il faut une certaine distanciation, il faut quelqu'un de l'extérieur, gna gna gna, etc. Et moi, à chaque fois que j'essayais, je ne peux pas dire. J'avais rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté et avec qui je m'entendais très très bien, mais à la fin du jour, oui, c'est vraiment elle qui m'a le plus aidé. Bon, mon père aussi, parce qu'il était violoniste, mais il avait une façon de voir la musique qui était très, très intéressante, et puis il m'a énormément soutenu et apporté, et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir...
Il était violoniste à l'orchestre de Cincinnati,
oui,
c'est ça?
Exact, hein? Oui, il a joué pendant 45 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, qui m'a beaucoup parlé. Je crois que l'expérience de jouer dans un orchestre, c'est quelque chose de très spécial, très particulier. Il disait toujours qu'on pouvait énormément apprendre avec les chefs d'orchestre. Il avait une grande admiration. Et puis, comment vous expliquer que quelqu'un qui est là, qui ne produit pas lui-même le son, est capable d'exprimer quelque chose avec des gestes, avec sa façon de s'exprimer, comme ça, avec quelques paroles pendant la répétition. C'est quelque chose d'absolument rare. Et puis quand quelqu'un arrive à exprimer ça, comme ça, et à façonner les choses, c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors il parlait beaucoup de ses expériences. Quand il est arrivé, c'était Max Rudolph, qui était un grand chef de tradition européenne, qui a été un des grands professeurs de la direction d'orchestre en Amérique, qui était vraiment quelqu'un qui représentait une grande tradition dans le meilleur sens du terme. Et donc c'est lui qui l'avait engagé, et puis du coup il a vécu cette période-là, et puis d'autres après, avec Michael Gillen, avec Jesús López Cobos, et puis Paavo Järvi. Il est parti à la retraite au même moment où Paavo est parti de l'orchestre. Voilà.
Et Paavo Järvi, c'est un chef avec lequel vous avez, par exemple, enregistré les deux concertos
voilà.
de Brahms.
Voilà.
Donc il y a une transmission, une filiation, là.
C'est drôle, et puis en même temps, c'est très touchant, parce que je trouve que c'est très beau, ça. Mon père avait vu beaucoup de chefs d'orchestre, et je crois que Paavo était un de ceux qu'il a vraiment préféré. Il a vécu, comme beaucoup de gens dans l'orchestre, c'était vraiment, je crois, une période importante et passionnante pour l'orchestre. Et le dernier concert où on a annoncé sa retraite... Il jouait déjà plus dans l'orchestre, mon père, parce qu'il était malade. Mais il est venu, ce concert-là, c'était vers la fin de la saison, et ils font ça très bien. Je ne sais pas si on fait exactement la même chose partout, mais en Amérique, on fait souvent une présentation des musiciens, comme ça. C'est très beau. Et il se trouve que c'était le dernier concert de Paavo, voilà, en tant que directeur musical.
Thank you.
Johannes Brahms, un extrait du deuxième concerto pour piano. C'était le deuxième mouvement par Nicolas Angelich, le chef estonien Paavo Järvi et l'orchestre symphonique de la radio de Francfort. On vient d'entendre ici un Brahms épique sous les doigts de Nicolas Angelich. Une œuvre d'ailleurs qu'il a étudiée déjà à partir de l'âge de 14 ans, ce qui nous donne une idée de ses moyens pianistiques. Il faut dire qu'il avait le souffle pour ce genre de musique, quelque chose qui est lié à la respiration musicale. On va le savourer, toujours dans la musique de Brahms, mais c'est une facette beaucoup plus intimiste. Voici l'opus 117 numéro 2 en si bémol mineur. C'est l'une des pièces les plus inspirées de Brahms, comme une caresse douloureuse.
Thank you.
Nicolas Angelitch dans l'Intermezzo opus 117 numéro 2 de Brahms. Le pianiste américain, dont le prénom d'ailleurs se dit Nicholas, a reçu d'excellentes critiques pour ses enregistrements de Brahms. Très jeune, il a été exposé à cette musique. Il écoutait par exemple le deuxième concerto interprété par Wilhelm Backhaus sous la direction de Carl Böhm. À la maison, il y avait aussi un vinyle avec les sonates pour violon et piano par Julius Katchen et Joseph Souk. Il a d'ailleurs joué la deuxième sonate pour violon et piano avec son père violoniste. Et puis, vers 10 ou 11 ans, il a étudié la grande sonate en fa mineur. Ça fait beaucoup de Brahms. Et puis en plus, il a eu la chance de prendre des cours auprès de Leon Fleischer, qui était l'un des grands experts de cette musique. Alors on va continuer, toujours avec Brahms. Ce sera la ballade en sol mineur tirée de l'opus 118. Brahms, la ballade en sol mineur tirée de l'opus 118 par Nicholas Angelitch. Autre compositeur que le pianiste américain a très bien servi, Franz Liszt. Il jouait l'intégralité des années de pèlerinage. Et puis, il a aussi joué certaines études d'exécution transcendante qui sont considérées comme particulièrement difficiles. Alors, il n'existe pas d'enregistrement en studio, mais heureusement, il y a quelques lives. Ici, la 10e étude en fa mineur, dite Appassionata.
Thank you.
Ici, la part virtuose de Nicolas Angelitsch dans la 10e étude en fa mineur de Franz Liszt. Alors, vous l'avez entendu, c'est pas facile du tout. Il y a plein d'octaves, il y a plein d'arpèges, toutes sortes de choses. Et c'est tiré du grand recueil des études d'exécution transcendante. On va continuer avec un autre enregistrement live d'une pièce qu'Angelitsch n'a jamais enregistrée en studio. C'est le Nocturne en fa majeur de Chopin. Il jouait cette pièce lors d'un récital en juillet 2010 au Festival de Verbier. Le Nocturne en fa majeur, tiré de l'opus 15 de Frédéric Chopin. C'était lors d'un récital par Nicolas Angelitsch en juillet 2010 au Festival de Verbier. De Verbier, on se rend à Lugano, car c'est là, lors d'un concert également, que Nicolas Angelic jouait le deuxième trio de Félix Mendelssohn en juin 2005 avec Renaud Capuçon et son frère violoncelliste Gauthier Capuçon. Une belle énergie hein, dans cette version en présence du public donc, et beaucoup de fébrilité dans l'archet de Gauthier en particulier. On se quitte sur cette musique de Félix Mendelssohn, le final Allegro Appassionato, ça je crois qu'on l'a entendu, du deuxième trio en ut mineur. C'était Nicolas Angelic au piano, Renaud Capuçon au violon et Gauthier Capuçon au violoncelle lors d'un concert en juin 2005 à Lugano. C'était dans le cadre du projet Martha Argerich, un festival aujourd'hui disparu, où Argerich s'entourait d'amis musiciens et elle aimait en particulier les frères Capuçon comme Angelic. C'est ainsi que se termine le deuxième volet d'une série de 5 émissions consacrées aux pianistes américains. RTS Espace 2, il est 13h. Tout de suite, le journal de la